بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dans le surat والليل إذا يغشى, Allah Azza wa Jal nous explique qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a celui qui a la crainte d'Allah dans son cœur et qui fait les bonnes actions. Et que cette personne a la conviction qu'un jour il y a un jugement et qu'à l'issue de ce jugement il y a soit le paradis soit l'enfer. Donc cette personne, c'est le cas du musulman, cette personne va faire en sorte de mener sa vie d'une telle manière où elle restera éloignée de ce que Allah Ta'ala a rendu haram et elle se tiendra dans les ordres d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et l'autre catégorie de personnes, c'est cette personne qui ne croit ni aux joies de la résurrection, qui ne croit pas au Jahannam et qui donc ne fait pas les actions pour s'en protéger et qui ne fait pas les actions pour aller au paradis non plus. Et cette personne, quand on lui demande de donner le chemin d'Allah ou autre chose, elle ne voit pas l'intérêt. Pourquoi? De même pour n'importe quelle action. Si elle ne croit pas au paradis, elle ne croit pas en l'enfer, cette personne se dit que quand on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais pourquoi elle va se fatiguer à s'abstenir des choses qui sont haram alors qu'ils procurent du plaisir? Si quelqu'un ne croit pas au châtiment de la tombe, ni à la résurrection, ni au paradis, ni à l'enfer, mais pourquoi elle va se priver de boire de l'alcool? Pourquoi cette personne va se fatiguer à acheter un poulet halal à 9 euros alors que non halal vous en avez pour 4 euros par exemple? Ça c'est une preuve de iman. Les actions sont la concrétisation de ce qui est dans nos cœurs. Ça c'est important. Nos amal, nos actions reflètent ce que nous avons comme croyance en Allah. Plus notre iman en Allah est solide, plus nos actions seront droites. Moins notre iman en Allah est présent, moins nos actions seront correctes. C'est pour cela que dans le Coran, Allah Ta'ala décrit trois catégories de personnes. C'est un verset tellement cite que j'espère que vous le connaissez par cœur. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Trois catégories de musulmans. Celui qui on commence par le premier. Celui qui se fait du tort, c'est quelqu'un qui tout le temps est dans le péché. On parle des musulmans, hein, pas des koufars. Quelqu'un qui est tout le temps dans le péché. Deuxième catégorie de musulmans, celui qui fait, hein, comme le verset, moitié bonne action, moitié mauvaise action. Elle fait ses namaz, mais il y a des fois qu'on quoi de circonstance où elle va négliger sa salat pour son travail ou pour telle ou telle chose. D'accord? S'il y a un match de football jusqu'à tard le soir, elle ne voit pas d'inconvénient à ne pas se réveiller pour Fajr. C'est normal, c'est la vie, c'est les amusements. Et puis la troisième catégorie de personnes, c'est les meilleurs. Sabiqoum bil khayrati bi idnillah. Ceux qui sont toujours en premier dans les bonnes actions, par ordre d'Allah. Dans les namaz, ils sont toujours là au premier saf. Ils font le faraz, le sunnat, les nawafil, le tahajjud, l'étude du Coran, tous les a'mal. La plupart des a'mal, ils le font. Ça, c'est les trois catégories de personnes citées dans le Coran de musulmans, et nos actions reflètent notre iman en Allah. Maintenant, pour la personne, hein, pour le verset qui nous intéresse, qu'on avait commencé à développer il y a quelque temps, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Le mauvais, le méchant, celui qui ne croit pas au paradis, ni en enfer, ni à la résurrection. Cette personne qui amasse ses biens, parce que quel intérêt de donner aux pauvres s'il n'y a pas de récompense? Alors là, Allah Ta'ala dit, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté. Hein? Donc, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Quand cette personne sera jetée tant dans la tombe que dans le feu de l'enfer, est-ce que sa richesse lui sera d'une quelconque utilité? Même si sur cette terre, c'était quelqu'un de respecté, d'aimer, ça faisait partie des grandes familles de notre pays, de notre île, de notre département, je ne sais quoi, et que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de bâtiments, grosses voitures, tout ce qu'il fallait, mais elle n'obéissait pas aux ordres d'Allah. Mais quand elle goûtera la punition d'Allah, est-ce que ces millions, ces euros, ces bâtiments lui seront d'un quelconque aide? Jamais de la vie. وما يغني عنه ماله إذا ترد الله تعالى demande de se baisser hein et très loin nous lui fassions et rien et à rien ne lui serviront ces richesses. Ça ne servira strictement à rien. Ça c'est l'attestation qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Et également cette catégorie de personnes le jour de Qiyamah, elle dira avec désespoir ma aghna anni maliya, ma fortune, mes biens ne m'ont été d'aucune utilité, ne m'ont rien apporté. Et même si cette fortune, ces richesses lui ont apporté quelques joies sur cette terre, mais il n'y a pas de bonheur parfait avec les biens matériels. Même si vous êtes très riche, même si vous avez fait de bons investissements, il y a des fois vous gagnez de l'argent, vous êtes content, mais il y a des fois vous perdez aussi, vous êtes triste. Il y a des fois où vous achetez les bonnes actions, actions dans le sens de la bourse, hein, pas a'mal. A'mal, les bonnes sont toujours bonnes. Il y a des fois les actions, ils sont pas bons, ça diminue, le taux elle diminue, vous perdez de l'argent. Donc même quelqu'un qui est milliardaire, un milliardaire qui paye 100 euros, il est triste. Alors 100 euros c'est quoi? C'est un cure-dent pour lui par rapport à une forêt. Pour nous 100 euros, si quelqu'un, c'est toujours un chariot chez Cora demain. Oui. 100 euros pour un milliardaire c'est quoi? C'est comme un cure-dent vous jetez dans la forêt par rapport à ces milliers d'arbres. Mais un milliardaire qui paie 100 euros, il est triste. Il est triste, d'accord? Parce que l'attachement, le cœur est attaché au bien. Il y a une dépendance, il y a une relation trop forte. Il y a une dépendance directe entre le cœur et les biens. D'accord? Si quelqu'un a 10 voitures, ébréchez une portière. Même si ce n'est pas la plus belle des voitures, rayez, vous allez voir comment il va se mettre en colère. Il va dire, pas grave, mais fais maf. L'assurance maf fait maf. Mais lui, il ne fera pas maf. Il dit non, ça c'est l'argent. Un euro, c'est un euro. Je fais constat et tout. Vous pouvez être aussi riche que vous voulez, on n'aura jamais, vous n'aurez jamais la tranquillité du cœur. Et la seule chose qui importe, c'est quoi? C'est les armes. Vous savez, ce genre de VSL, hein, ça résume le dunya, la vie entière, ça. Si quelqu'un a compris qu'il y a deux catégories de personnes, et que selon votre iman, vos actions seront comme ci ou comme ça, et qu'en fonction de votre iman, sur le jour de Qiyamah, vous orienterez votre vie, mais khalas, qu'est-ce que vous voulez encore? Vous avez tout compris. On a tout compris, on va savoir quelle est ma voie, quel est mon chemin, et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est pas plus compliqué que ça. Et que si votre voisin, il est très riche, et vous êtes très pauvre, vous vous dites, c'est pas grave, ça. Le plus important, c'est iman de le cœur. Parce que lui, il est peut-être très riche, mais sa richesse, c'est une épreuve, ça. Avec ses biens, il a tellement de responsabilités qu'il ne peut pas faire namaz al-jamaat, par exemple. Ou qu'il a des manquements dans tel ibadat. Et vous savez bien que même s'il a l'air d'être heureux, mais là-dessous, là, cette pied sous terre, cet argent, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ. Ça ne servira strictement à rien. Et là aussi, on avait expliqué la dernière fois, on ne va pas revenir là-dessus, que les a'mal, c'est ce qui compte, et dans chaque action, il faut être sincère. Il faut qu'on accomplisse une action suivant la sunnah, le Coran ou la sunnah, et également, hein, il faut faire attention, ne jamais faire du mal, ne jamais faire du tort à notre prochain. Parce que le zulm, l'oppression, ça détruit vos actions, le jour du Qiyamah. Et maintenant, les personnes qui gardent leurs biens. Allah dit en Coran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. En ce sens, la personne qui fait, il est bakhil, il est kanjous, comme on dit. Cette personne est avare, elle ne donne pas, il garde, il amasse. Elle ne croit pas que ça, c'est profitable pour elle. Elle croit, elle dit, ah là, maintenant, il demande à moi 100 euros, 200 euros pour masjid, malgré qu'il passe sur un autre chemin, mais elle a évité, c'est toujours 200 euros de garder dans ma poche. Du tout. Elle a l'impression qu'elle a conservé son argent, qu'elle a gagné. Non, elle n'a rien gagné. Parce que, Allah dit dans le Coran, la suite, hein, bel, vous achetez le monde, c'est mauvais pour eux. Et c'est Allah, il connaît que ce bien que vous gardez, c'est mauvais. Allah, il connaît mieux ça. Parce que vous, c'est Allah qui vous a créé. L'argent, c'est Allah qui a créé. L'argent, c'est Allah qui vous a donné. Et Allah vous a dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent? Et que Allah, il connaît que si vous le gardez, c'est néfaste. Et dans un hadith, là, on parle de la personne qui ne donne pas zakat, hein. C'est autre chose, hein. Vous savez, la zakat qui n'a pas été donnée, se transformera en serpent et dira, ana maluk, ana kanzuk. Et dans d'autres hadiths, ce sera des plaques qui vont brûler son dos. Et c'est-à-dire, c'est des adab, jour de la résurrection, uniquement parce que cette personne n'a pas donné le droit de l'argent. Et tous les ni'amat qu'on peut avoir sur cette terre, hein, que ce soit la richesse, la beauté, la force physique, les biens, le nœud, etc., là, hein, tout ça, c'est amanat. Allah il vous donne les biens, c'est un dépôt ça. Et Allah il regarde comment vous agissez. Allah il vous a donné la santé, mais votre voisin lui il est tout le temps malade. Mais cette santé là, Allah vous l'a donnée et il regarde qu'est-ce que vous faites de cette santé. Également tous ces bienfaits là,
sont créés par Allah. Ça, c'est important. Je ne suis pas riche parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, parce que je suis intelligent. J'étais en train de parler avec quelqu'un dernièrement. Il m'a dit que Bouglala, c'est avec son coco, ça, il a gagné l'argent. Quelqu'un très riche, alhamdoulilah. Il a dit ça, là. Il a dit, il a gagné l'héritage. Avec son coco, il a gagné. Mon cœur dit, non, c'est pas avec son coco. C'est par la grâce d'Allah. Il y a plein de gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais ils ne gagnent pas, ils travaillent, mais ça, l'argent ne rentre pas. Donc, quand Allah, il donne à quelqu'un la richesse, ou la santé, ou autre chose, c'est quelque chose qu'Allah vous a donné. Vous n'avez pas obtenu, vous n'avez pas eu par votre propre transpiration, autre chose, c'est Allah qui vous l'a donné, et ça rejoint le premier. Ça a été créé par Allah. La richesse est une créature d'Allah. Donc, elle dépend d'Allah. Le jour où Allah il veut reprendre, il reprend. Pareil pour la santé. Allah nous protège, il vous protège. Il y a des gens qui sont en bonne santé. Le lendemain, ça va un peu moins bien. Le jour d'après, ça va plus trop. Une semaine est malade, traitement, antibiotiques, il change, ça passe pas. Au bout d'un mois, le docteur a dit, il faudrait faire un bilan, analyse sanguin. Et là, le docteur, il voit des plaquettes, il y a un problème, autre chose. Et puis, il dit, il faut faire un scanner, peut-être. Et là, on décèle une tumeur. Ça arrive. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Des gens jeunes en pleine santé, force de l'âge, décèdent une tumeur et le docteur dit que ben voilà, c'est un stade trop avancé, on ne peut plus rien faire. La personne est condamnée, elle va perdre ses moyens de jour en jour, elle va mourir dans un mois, deux mois, qu'Allah nous protège. La santé, Allah donne, c'est une créature d'Allah et Allah peut reprendre quand il veut. Ainsi que les biens, ainsi que tout ça, toutes les ni'amat. Et troisième chose à retenir, quand Allah donne, c'est une épreuve, c'est ibtila. Sur tous les biens de ce monde, dans un hadith, en ce sens, le prophète dit qu'il y a certaines personnes à qui Allah Ta'ala a donné les biens. Et Allah, il savait de sa science illimitée que s'il n'avait pas donné ces biens-là à cette personne, Allah Ta'ala, on reformule, Allah Ta'ala savait que la seule chose qui était bonne pour cette personne, c'était la richesse. Et que si elle n'avait pas les moyens, elle serait tombée dans tel ou tel péché. Et pour d'autres personnes, Allah Ta'ala a décidé qu'elle soit pauvre, qu'elle vive pauvre, et qu'elle meurt pauvre. Et rien ne valait mieux pour cette personne que la pauvreté. Parce qu'Allah, il savait dans sa science infinie que s'il lui avait donné la richesse, cette personne aurait fait tel péché. Pour le protéger, Allah a préféré le garder dans cet état. Et quand Allah donne à quelqu'un, ben, il y a plus de mas'ouliya, il y a plus de responsabilité. Un riche sera interrogé pour chaque euro dépensé. Mais un pauvre, quelqu'un qui n'avait pas les biens, ras. Tranquille. Sur ce dunya, il n'est peut-être pas tranquille, mais là-haut, le prophète me dit en ce sens que, hadith, hein, que les pauvres entreront au paradis 500 années avant les riches. Même si c'est un riche pieux, mais le pauvre entrera au paradis. Parce qu'il n'a pas de hisab, lui. Il avait quasiment rien. Il n'y aura pas pour répondre sur toutes ces ni'amat. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose aussi sur lequel il faut bien comprendre. Il y a quelque chose à éclaircir. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est riche, qui est aisé, et que cette personne n'obéit pas à Allah, comment on comprend ça? Elle dit, « Mi fait namaz, mi fait mon rosa, mi fait tahajjud, mais ça ne va pas. Financièrement, on ne s'en sort pas. L'espèce que tout l'espèce paresseux, là, il lève pas fajjal. Ça, il lève ses teux le matin, ça travaille et tout. Mais Allah, il donne à lui même. Est-ce que posséder les biens de ce monde, ça veut dire qu'Allah vous a favorisé parce qu'il vous a aimé? Jamais de la vie. Ça, vous faites très attention. Comme on a dit tout à l'heure, le pauvre est entre au paradis avant. Et le riche, le jour de Qiyamah, va regretter. Il aurait souhaité être pauvre sur la terre pour pouvoir accéder au paradis plus rapidement. On avait déjà expliqué ce hadith, qu'il y a certaines demeures dans le paradis pour les musulmans qui étaient pauvres sur la terre. Et que les gens qui étaient riches sur ce dunya et qui sont dans le paradis, ils ne peuvent pas y entrer. Ça, c'était pour ceux qui étaient éprouvés sur ce dunya par la pauvreté. N'oublions pas ce verset dans lequel Allah dit que fatahna alayhim abwaba kulli shay, que pour certaines personnes, Allah il donne. Il voit que cette personne ne veut pas la guider, ben Allah il ouvre les portes des bienfaits. Cette personne, elle va amasser et gagner beaucoup d'argent, mais quand Allah il reprend, quand Allah il décide de punir la personne, là la punition elle arrive directement. Donc quelqu'un qui est aisé, ça ne veut pas dire, jamais ne comprenez pas que c'est quelqu'un qu'Allah aime et Allah lui a donné. Quand Allah aime quelqu'un, Allah lui donne tawfiq de faire son ibadat. Parce que ibadat, c'est pour vous dans ce dunya et pour vous dans le akhirat. Tandis que la richesse est ici basse. Et ça peut vous amener vers le bon chemin, si vous donnez sadaqa, zakat, comme ça peut vous amener vers l'enfer, et dans Kabbal, dans l'akhirat, ça n'existe plus. S'il y a une trace, c'est du côté négatif. Le hadith de quel prophète dit, quand le prophète dit que man yuridillahu bihi khayra, lorsqu'Allah Ta'ala veut du bien pour quelqu'un, lorsqu'Allah Ta'ala veut du bien pour quelqu'un, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il fait? Est-ce que la suite du hadith c'est yurinihillah, Allah donne la richesse, Allah lui donne l'honneur? Non. Yufaqqifu fi din, Allah lui donne tafaqquh, Allah lui donne l'ilm. Quand Allah Ta'ala il aime quelqu'un, Allah Ta'ala lui donne la science. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui rapproche plus un être humain d'Allah Ta'ala que la science religieuse. Et quand cette personne va aller apprendre, toute la durée de son temps, la boule'il, il y aura les anges qui font doigt pour lui, ainsi que les makhlouqat, ça on connaît. Également, lorsque cette personne, elle a appris maintenant, elle propage, hadith, il dit que les anges, les makhlouqat, ils font salat ou salam, ils envoient leur salutation, leur doigt, pour ala mu'allimin nasi khayr, c'est le même sens, la personne qui enseigne du bien aux gens, là aussi il obtient les mêmes récompenses durant toute sa vie. Donc Allah, il veut du bien pour quelqu'un, Allah ne lui donne pas la richesse, ni le nœud, ni autre chose, Allah lui donne le ilm, et le ilm qui amène vers la pratique, vers les a'mal et saliha. Taïb. Autre chose, quand vous voyez qu'une personne, elle est remplie de ni'amat, de richesse, est-ce que ça veut dire que cette personne est heureuse? Vous connaissez l'adage, hein, le proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur, ne fait pas le malheur non plus, hein. Non, ça n'a pas été dit, pas forcément, mais en tout cas ne fait pas le bonheur. Même si quelqu'un est très aisé, analysez le rythme de vie des grands footballeurs, ceux qui ont eu des millions, il y en a qui gagnent 1 million d'euros par semaine, d'accord? Est-ce qu'ils sont heureux? Regardez ce grand footballeur qui ne travaille plus, hein, si on pouvait appeler ça un travail, qui est d'origine d'Amérique du Sud, d'accord? C'était l'homme le plus célèbre au monde dans ce domaine, d'accord? Mais pourquoi cette personne s'est adonnée à la drogue, au cannabis? C'est qu'il y avait un manque. Quand quelqu'un consomme de la drogue, c'est que intérieurement il se sent mal. Quand vous êtes en bonne santé, vous êtes riche, vous avez une femme, des enfants, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Est-ce que vous allez à la recherche de sensations nouvelles? Non. Ce monsieur-là, il avait tout. Mais pourtant, il a commencé à consommer de la cocaïne, la drogue dure en plus. C'est qu'intérieurement, il n'était pas tranquille, il n'était pas heureux alors qu'il était célèbre. S'il rentre dans un stade, tout le monde, c'est comme Tashkil, hein, tout le monde debout. Vous donnez le nom, mais il ne demande pas, vous donnez le nom, il debout par respect, adab. Donc, pas, on appelle ça standing ovation. D'accord? Ce genre, on appelle quelque chose. Regardez quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dire de nom parce qu'on est à une masjid. Hein. Il y avait une chanteuse célèbre. Elle est toujours vivante. Hein. Et tout d'un coup, son coco l'a bloqué. Elle s'est rasée la tête. Et elle s'est filmée sur Internet en train de se raser la tête. Et les cheveux étaient vendus sur eBay, je ne sais pas quoi, les sites. Mais pourtant, c'était la chanteuse la plus célèbre de 2005, 2006, 2007. Riche. Elle claque des doigts et elle a des princes charmants. Château, tout, toute la panoplie. Mais pourquoi ce coco il bloque? C'est quoi le problème? Quand vous avez l'amour, la gloire, la beauté. Normalement, c'est ça la recette du succès, non? Vous voulez qu'on chante pour comprendre? Logiquement, quand madame est à la maison, il regarde, ah oui, après il regarde feuilleton, il calcule que si je suis comme ça, je serai heureux. Ça, c'est le mauvais Irlan, ça. Le vrai Irlan, c'est quoi? La réussite de ce bas monde de là se trouve dans l'obéissance à Allah et à l'Ikat Sunnat. Mais ça on dit, ça on écoute, mais quand il a cassé, c'est amour, gloire et beauté. Madame dit c'est ça succès. D'accord? Mais cette chanteuse, elle avait amour, gloire et beauté. Beauté, je ne sais pas, hein? Mais en tout cas, amour, gloire, il y avait tout ce qu'il fallait. Célébrité. D'accord? Mais pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'intérieurement, il y a un problème. C'est pour ça qu'Allah a dit au Coran, si je retrouve ce verset, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ وَيَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Qu'est-ce que ça veut dire صَدْرَهُ ضَيِّقًا? C'est-à-dire la poitrine, elle est serrée. Ça veut pas dire qu'elle a de l'asthme, hein? C'est au sens figuré. C'est-à-dire qu'il y a un poids sur le cœur. Cette personne, elle a tout, elle a un rythme de vie. Peut-être que toutes les semaines, ils sont invités par les stars, par des rois, des princes et tout. Mais il y a quelque chose qui manque dedans. Et ce manquement-là, ce n'est pas des flux de pétrole ou d'argent qui vont combler. Qu'est-ce qui manque? Ça, c'est la fitra, ça. La fitra, c'est quoi? C'est ce qui est inné chez n'importe quel être humain. Ce qui manque, c'est la relation avec le Khaliq. La relation avec le Créateur. Si une personne ne s'est jamais prosternée devant Allah, elle ne saura jamais c'est quoi le plaisir qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que les gens qui se convertissent à l'islam, ils y sont le plus accrochés. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent un plaisir qu'ils n'ont jamais connu. Le sijda, la salat. Alors que nous, alhamdoulilah, pour la plupart, nous sommes nés dedans. Donc, c'est devenu habituel. D'accord ? Mais celui qui a vécu 40 ou 50 ans dans tout et dans n'importe quoi, et qu'il commence à connaître c'est quoi adorer Allah, là, pour cette personne, c'est une révolution intérieure. C'est une émancipation exceptionnelle sur le plan spirituel. Donc, ces personnes qui ont tout, ils ont l'air d'être heureux, d'apparence, mais leur cœur est rempli de tristesse. Ils ont ce qu'on appelle les na'im jasadi, les bienfaits matériels, mais le na'im ruhi y'a pas. La quiétude dans le ruh, dans l'âme, est inexistante. Et parfois, l'intérêt peut donner à quelqu'un. Inna Allah la yumli lil zalimi hatta ila khadahu ila akhir al hadith. Allah Ta'ala, parfois, il voit que quelqu'un est un tyran, un oppresseur. Mais Allah Ta'ala lui donne. Que quelqu'un, il fait volam sur tout le monde. Il dit, mais ça, c'est la pire des makhloukats. Si nous, si le rosi, si la subsistance était dans nos mains, on aurait décidé que cette personne meurt de faim, ne mérite même pas une bouchée de nourriture de la part d'Allah. Mais Allah Ta'ala lui donne, il lui donne, il lui donne. Et ça, ça va le plonger plus encore. Allah Ta'ala lui donne pour plus le détruire. Mais nous, sa réussite pour nous, c'est une épreuve, ça. Qu'il ne faut pas qu'on croie que malgré qu'il est riche et qu'il est méchant ou il n'a pas iman, il est heureux, peut-être c'est le succès. Non, qu'on comprenne bien que ça, c'est l'apparence. Vous voyez ? Bon, on revient un petit peu plus dans le verset du Coran. Maintenant, autre cas de figure. On connaît le hadith dans lequel le Prophète dit que, de toute façon, ce monde-là, al-dunya, c'est jannatun lil mu'minin, jazakallah, wa jannatun lil kafir. Que ce bas monde, c'est une prison pour le croyant et un paradis pour celui qui n'a pas iman. Ça, on connaît tous le hadith. Nos enfants, ils ont appris ça, madrasa, on le connaît nous aussi. Maintenant, si on voit le contraire, comment il faut interpréter ça? Si on voit qu'il y a des musulmans qui sont riches, heureux et bien, et que quelqu'un qui n'a pas iman, elle est pauvre, malade, et dans toutes les difficultés. Alors, c'est une anecdote comme ça, on n'a pas l'habitude de raconter des histoires, enfin, au sens, pas au sens péjoratif, des histoires, des récits, d'accord? Parce que souvent, les récits sont des histoires, au sens négatif, d'accord? Mais là, c'est une histoire, c'est pas n'importe qui, c'est Ibn Hajar, al-Asqalani, hein, celui qui a commenté Bukhari Sharif, le plus grand khidmat de din dans le monde entier, le commentaire de Bukhari Sharif, qui a pris Ibn Hajar 40 ans. 40 ans, il a écrit, pendant 40 années, il a écrit les commentaires de Bukhari Sharif. Alors, Ibn Hajar al-Asqalani, il était le chef des juges, il était qadi. Mais il était plus que qadi, il était le responsable de tous les qudat, de tous les juges en Égypte, en Égypte, d'accord? Et donc, une fois, il passait en ville, sur une, pas une monture, mais comment on pourrait appeler ça? Il était une charrette, je sais pas si ça se dit, un chariot poussé avec les chevaux, etc. Donc il était bien assis, pas un carrosse ça fait prince aussi. C'est-à-dire, il était une situation, alhamdulillah, envieuse. Et là, il croise une personne qui était d'une autre religion qu'on ne citera pas, et que cette personne était vendeur de saman. À saman, comment on peut appeler ça? En ourdou, on dit le ghee. Le ghee, c'est quoi? C'est la graisse fondue. C'est comme du beurre, mais c'est la graisse animale qui est fondue. On utilise ça pour cuisiner, d'accord? Si c'est halal, bien sûr. Cette personne vendait de la graisse et du beurre. D'accord? C'est l'histoire. Voilà. Et donc, cette personne, elle était très mal habillée, elle était sale. Vous voyez, imaginez qu'il se vendait de l'huile, du beurre, etc. Ses vêtements sont gras, etc. Et donc là, cette personne a interpellé Ibn Hajar. Elle dit, oh Ibn Hajar, oh imam, cette personne n'est pas musulman, bien sûr. Elle dit que votre prophète, soi-disant, votre prophète dit que ce bas monde est une prison pour vous et un paradis pour nous. Alors comment vous expliquez ça? Toi, tu es dans tel ni'amat, tu es dans un chariot, tu es dans, alhamdulillah, tu es dans une situation, on ne trouve pas le mot, c'est terrible. Vous êtes dans telle situation, alors que vous êtes musulman, dans ce confort, alors que tu as iman, soi-disant, moi je n'ai pas iman, selon toi, et regarde, donc ça démontre ce que votre prophète a dit. Et là, Ibn Hajar réfléchit, il donne une réponse remplie de sagesse. Il dit que je suis, à ce moment précis, dans une prison, pas par rapport à ce que Allah a prévu pour les musulmans, le jour du Qiyamah dans le paradis. Parce que les bienfaits de ce monde ne sont strictement rien par rapport aux bienfaits de du Akhirat. Elle dit, certes, je suis dans une situation enviable, confortablement installée, mais ces ni'amats-là, c'est rien par rapport à ce qu'il y a dans le Jannat. Donc, je suis dans une prison par rapport à ce qu'Allah a réservé pour les musulmans dans le paradis. Et toi, il y a un adunia, un faïb, et dit que فَأَنْتَ فِي جَنَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا أُعِدَّ لَكَ مِنَ الْعَذَابِ إِنْ مُتَّ عَلَى كُفْرٍ. Elle dit, tandis que toi, tu es dans un paradis là, malgré ta pauvreté, tes difficultés, tu es dans un paradis, si on compare ta situation avec ce qui t'attend là-haut, si tu meurs sans le iman. Il a expliqué ce hadith que Allah a dit, le prophète a dit que un endroit, c'est-à-dire que dans le paradis, un endroit, c'est-à-dire un morceau de bois de le paradis, khairum min ad-dunya wa ma fiha, un petit morceau de bois de le paradis vaut mieux, a plus de valeur que ce monde et tout ce qu'il contient. Donc ça c'était juste une petite anecdote qu'on avait citée. Donc quand on voit un musulman riche et un non-musulman, quelqu'un qui n'a pas un iman pauvre, c'est la décision d'Allah. Quand on voit quelqu'un qui a iman qui est pauvre et que quelqu'un qui n'a pas iman qui est riche, ça aussi c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore 5 minutes ? Laisse 26 minutes encore, c'est 30, d'accord ? Ensuite, Allah ta'ala dit « Inna alayna lal-huda ». Allah ta'ala dit « Inna alayna lal-huda ». La traduction, pour ne pas se tromper. C'est à nous, certes, de guider. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Donc, Allah Ta'ala, il affirme de ce verset du Coran que c'est lui qui donne la guider. C'est lui qui donne la hidayat. Alors, mais concernant la hidayat, Allah Ta'ala a envoyé les prophètes des Anbiya. Dans quel objectif? Allah Ta'ala a envoyé des prophètes dans tous les endroits de la terre, à différentes époques, afin que personne, le jour de Qiyamah, ne se présente auprès d'Allah et dit que je n'ai jamais entendu parler de l'unicité d'Allah. Je n'ai jamais entendu parler de l'islam. Allah Ta'ala dit au Coran, Rusula mubashirina wa mundirin, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Afin que personne n'ait un hujja, n'ait un argument ou quelque chose à dire à Allah que moi, personne ne m'a parlé de l'islam. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Depuis 15 siècles, il n'y a plus de prophète. Mais ce hujja-là, il peut exister alors. Le kafir pourrait dire que j'ai pas vu de prophète, moi, depuis que je suis né jusqu'à ce que je suis mort. Mais là, c'est le travail de chacun d'entre nous. Et ça rejoint le discours qu'on entend dans le tablir et le verset du Coran. Ukhrijat linnas. On est là pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Et ça, c'est ce qui fait notre mise, notre spécificité, que ce travail d'Anbiya, chacun d'entre nous qui a les compétences, il le fait. Et de cette manière, il fait établir al-Risala, il continue à propager là le message afin que personne ne soit privé du nour de Iman. Alors, donc, inna alayna lal-huda. Et également, ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est que Allah Ta'ala, inna alayna lal-huda, Allah Ta'ala a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il fallait pour la guider des gens. Et Abu Dharr radiallahu anhu dit que لَقَدْ تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا طَائِرٌ يَقْلِبُ جَنَاحِهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Et lorsqu'il est décédé, tellement il avait dit des choses que même pour un oiseau qui vole dans le ciel, là-dessus aussi nous avait donné des informations. C'est-à-dire que la hidayat qu'Allah, le hidayat dont il est question, c'est l'explication. Hein? Hidayat, on appelle ça Hud al-Bayan wal-Irshad. C'est pour montrer aux gens quel est le droit chemin. Et notre prophète nous a enseigné tout ce qu'il faut pour trouver le droit chemin. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y avait une fois une personne d'une autre religion qui avait dit à Salman al-Farsi que, en se moquant, Allamakum nabiyukum hatta al-khara'a. A dit ce prophète-là, il vous a tout enseigné alors. Il a dit même pour aller aux toilettes, là aussi, il vous a montré comment aller aux toilettes. Et il a dit Ajal, Allamana hatta al-khara'a. Et Salman a répondu oui. Lui, il voulait se moquer. Mais Salman a dit oui, tout à fait. Il nous a enseigné même comment aller aux toilettes. comment se protéger de l'urine, quels sont les péchés, comment il faut aller ne pas s'orienter vers le Qibla ou donner le dos au Qibla, le stinja, etc., etc. Oui, parfaitement, monsieur. En ce sens, hein, même ça, notre prophète nous a enseigné. Et réellement, vous pouvez chercher dans l'histoire de n'importe quelle autre religion, vous ne trouverez jamais une religion qui touche à autant de domaines, c'est-à-dire à tous les domaines, que ce soit dans la vie religieuse que dans la vie mondaine. Et maintenant, regardez, pour rester juste à ce qui fait un peu l'actualité de notre religion ces derniers temps, maintenant, il y a des domaines qui sont en train de se développer en France, en Angleterre, outre-Atlantique, c'est la finance islamique. La finance islamique, dont, alhamdoulilah, la Réunion aussi, on a pris un décollage assez remarquable, dans la finance islamique, est-ce que dans une autre religion, vous avez trouvé des responsables, des dignitaires religieux qui parlent de finance dans leur la ou Allah? Est-ce que dans le Taurat ou dans le Injil, vous allez trouver des versets qui expliquent que si un père meurt, qu'est-ce que sa femme aura? Un père de famille meurt, qu'est-ce que sa femme aura comme héritage? Et qu'est-ce que sa femme aura s'il y a un enfant, s'il y a deux, s'il n'y en a pas, etc., etc. Ces versets qui parlent de l'héritage, et ce sont des règles tellement complètes qu'elles suffisent à n'importe quel notaire. Et les enseignements concernant la finance islamique, comment léguer les biens, comment donner en héritage, ou alors les donations avant la mort, ou le parapet, etc., ben, les notaires, maintenant, ils maîtrisent tout ça. Parce que ça rejoint, dans un certain sens, leurs études à eux. Maintenant, il y a quelques différences, bien sûr. Certaines choses qu'ils font ne sont pas conformes. Mais ils sont obligés de connaître ça. Parce que c'est un enseignement extrêmement riche. D'accord? Si je vous dis le domaine du halal, où allez-vous trouver une autre religion qui donne autant d'importance au halal, dans la recherche de ce qui est pur pour la consommation avec ses conditions, etc. D'accord? Donc, d'une manière générale, il n'y a pas un domaine dans lequel notre dîn n'a pas donné le maximum d'informations. Donc, je pense que pour aujourd'hui, hein, c'est suffisant. Et là, à l'heure où je vous parle, on est vendredi aujourd'hui, il y a demain, on a un moufti de Saint-Denis qui a été invité en métropole. Je ne sais pas dans quelle ville. Il y a une conférence sur la finance islamique et donc ils ont invité ce moufti de la Réunion, un jeune, pour faire un débat, pour présenter un sujet sur la finance islamique. Et vous vous souvenez, une fois on avait expliqué ça d'un bayan et du ma, par rapport à la récession économique, il y avait un grand journaliste ou un économiste qui disait que ben, tout compte fait, si on avait regardé un peu plus le système financier de l'islam, ben, on ne serait pas arrivé à cette crise. Parce qu'on est arrivé à cette crise parce que l'économie tourne essentiellement autour de la spéculation. Alors que l'intérêt, la spéculation, le fait de vendre ce qu'on n'a pas encore obtenu, tout cela, ce sont des choses interdites dans les mu'amala, dans l'islam. Et ce qui a fait chuter certains pays, c'est qu'ils s'étaient trop avancés dans la spéculation. C'est-à-dire que leur argent n'avait pas de fond. Ils avaient des billets, mais il n'y avait rien derrière ces billets. Maintenant, le système européen, alhamdoulilah, n'a rien à voir avec ce système-là. Quand vous avez un billet de 5 euros, il y a son équivalent en or dans la Banque de France. Donc, vous savez, le système européen est toujours plus proche de la charia. Certains disent que, Wallahu a'lam, une des explications, que lorsque Napoléon était en île de Sainte-Hélène, il paraît, vous savez, dans certains écrits, Napoléon, il affichait son admiration pour Mahomet, pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains, Wallahu a'lam, on n'a pas de preuve. Certains disent que soit il se serait converti, mais ça, hein, si les laïcs verraient ça comme quelque chose de blasphématoire, comment un intégriste, imam intégriste, ose dire à notre héros national qu'il était musulman, déjà qu'on a déjà dit que Cousteau était musulman. Ou alors, s'il ne s'était pas converti, wallahu a'lam, il s'était longuement inspiré des principes du Coran pour éditer les lois. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de similitudes entre les lois du Coran et les lois de notre République bien-aimée. D'accord? Donc, on comprend que cet économiste, ce qu'il dit, c'est profond et c'est vrai. Il dit que d'ailleurs, regardez pourquoi dans les pays du Golfe, du Moyen-Orient, ils n'ont pas connu une telle crise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pratiquent pas l'intérêt, hein, à part, alhamdoulilah, Makkah, Madina, où vraiment ils sont très stricts. Mais si vous allez à Dubaï ou dans les Émirats ou ailleurs, ben, il y a tout, il y a un peu de tout, d'accord? Mais c'est beaucoup moins que dans les pays occidentaux. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu cet impact. Vous allez dire, oui, mais le pétrole sort sous votre pied. D'accord, mais il n'y a pas eu autant d'impact sur le système parce qu'ils s'étaient rattachés d'une certaine manière aux ordres d'Allah concernant les mu'amala. Qu'Allah t'en donne tawfiq. de comprendre ce qu'on a, on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la relation qu'on a avec les biens, la relation qu'on a avec l'argent, et comprendre quelle est l'importance de ces biens concernant notre vie de ce monde, et comment ces biens ne sont d'aucune utilité dans la tombe et dans l'au-delà, et que c'est uniquement nos a'mal qui nous seront profitables. On a vu différents cas de figure, ne pas se baser sur les biens d'une personne, faut penser qu'Allah l'aime, et se mettre à l'esprit que moins on a, plus on entrera rapidement au paradis. Et on a vu que la guidée, c'est dans les mains d'Allah, et que Allah ne laisse pas les gens sans qu'il y ait la propagation de la religion. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a envoyé des prophètes à toutes les époques. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir « Wa inna lana l'al-akhirata wal-oula » Et puis, on va voir ce verset qu'on aimerait développer. « Fa'anzartukum naran talazza » La Ta'ala met en garde contre un feu, ce feu qui est terrible, d'accord. Et donc, on va expliquer un petit peu comment est le feu du Jahannam. Alors, il y a un petit point de Aqidah, hein, j'aimerais un petit peu, juste en 30 secondes, parler. Les Mufassirin disent que quand Allah t'a dit « Inna alayna lal-huda » que c'est Allah qui guide, qu'on comprenne bien qu'un homme ne pourra trouver le droit chemin sans ce qu'Allah a envoyé. Sans le Coran et le Hadith, on ne peut pas trouver la Hidayat. Alors que certains, je parle des certains parmi les Ash'ari, ils ont un principe dans leur madhab, dans leur aqidah, c'est quoi? C'est le doute. Ils disent quoi? Que chaque personne doit à un moment donné de sa vie oublier toutes ses croyances en Dieu. Et c'est un peu philosophique ça. Hein? Et essayer d'arriver à une déduction par sa logique qu'il ne peut exister un monde sans Dieu. Et de cette manière, votre iman sera plus fort parce que vous y êtes parvenu par votre propre logique. Ce n'est pas quelque chose que vous avez hérité de vos parents, de vos grands-parents. On comprend le principe, d'accord, mais cela est en contradiction avec Inna alayna lal-huda, car la guidée, ça vient d'Allah Ta'ala. Par notre intelligence, on ne trouvera jamais le droit chemin, parce que la logique pure sera toujours contradictoire. Je vous dirai juste deux notions, la notion de l'éternité et la notion du destin. Cela ne peut être accepté par la logique humaine. Shaitan va venir dire, oui, d'accord, écoute, on va essayer de comprendre avec un raisonnement cohérent, cartésien, que ton Dieu existe, qu'il est unique, d'accord. Mais ce Dieu unique-là, il dit qu'il a toujours existé. Comment quelqu'un peut-il avoir toujours existé? L'éternité dans notre sens, allez, on va dire oui. Mais l'éternité concernant, il n'y a pas eu de début. Ça, c'est inacceptable sur le plan logique. Que je vous dis que cet appareil a toujours existé. C'est pas possible. Il a été fait il y a 2 ans. Ce livre a toujours existé. Non, il y a 10 ans qu'il a été imprimé. Avant, ce papier-là était encore un arbre. Cet arbre était encore un bourgeon. Ce bourgeon était encore sur l'arbre. Il venait de l'arbre, etc. Qui lui-même était bourgeon, etc., etc. Toute chose a une origine. Mais vous voyez, par la logique pure, on ne peut même pas accepter l'existence d'un Khalid. Et si je vous parle du destin, là aussi la logique pure ne peut l'accepter. Donc la guidée ne peut, on peut obtenir la guidée jamais. On ne pourra l'obtenir uniquement par notre logique, par notre raisonnement, mais ce n'est pas Allah Azza wa Jal, parce qu'il est arrivé par le Coran et les hadiths. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre. C'est quelque part un petit message à l'attention de nos jeunes aussi. Inch'Allah. Samedi prochain, il y a quelque chose d'organisé sur le centre-ville de Saint-Denis, à la grande mosquée de Saint-Denis, dans la continuité de ce qu'on avait fait à Saint-Pierre, le EADJ, le rendez-vous des jeunes 2008. On a, Inch'Allah, l'intention de faire, Inch'Allah, régulièrement, des rendez-vous des jeunes. Là, ça concerne que Saint-Denis. On attend une certaine quantité de jeunes, Inch'Allah. Ça commencera samedi après la salat al-Asr. Et ça se terminera dimanche à 7h du matin. Pour que ceux qui ont des sorties en famille, etc., ils peuvent partir. Donc c'est depuis samedi à sabre, jusqu'à dimanche après Fajr. Là, il y aura des programmes. Et surtout, il y aura des groupes de discussion. Ça, c'est important. Inch'Allah, il y a pas mal de alim qui seront présents. Et on va fragmenter la jamaat en petits groupes. Et là, les jeunes qui seront là, à partir de 17 ans en général, hein, et ils pourront parler de tout ce qui les importe. Ce sera des cercles privés. Ils pourront parler de tout ce qui les pose problème, tout ce qui les chagrine, tout ce qui les empêche d'avoir une relation correcte avec Allah. Ça peut être le problème lié à l'alcool, la drogue, ou alors le zina, ou alors n'importe quoi. Mais ce seront là des sujets ouverts. Donc, si nous avons dans notre famille des jeunes à partir de 16, 17 ans, jusqu'à 25, 26, 27 ans, ben, que ces personnes s'inscrivent auprès du alim de la localité. Par exemple, de la Tanié, ben, de le Mashfera, Mouli Abbas était là. Donc, ceux qui sont de la Tanié, ben, référez-vous à Mouli Abbas Kadji ainsi que Mouli Hassan Adjibali. ainsi que Dajjal, Mu'in, par exemple, etc. Ceux qui veulent venir, qui s'inscrivent, au moins on a une estimation, et Inch'Allah, ce sera extrêmement profitable.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin.